Petit 5. L'opportunisme en théorie et en pratique. Le livre de Bernstein a eu pour le mouvement ouvrier allemand et international une grande importance historique. Il a constitué la première tentative pour donner au courant opportuniste, à la social-démocratie, une base théorique. Si l'on tient compte de certaines manifestations sporadiques qui se sont fait jour, nous pensons par exemple à la fameuse question de la subvention accordée aux compagnies maritimes, note de bas de page, c'est en 1884 et 1885 que fut discutée au Parlement la question de la subvention que Bismarck voulait accorder aux compagnies maritimes, en particulier celles qui reliaient les premières ou futures colonies allemandes à la métropole. La social-démocratie allemande fut très divisée sur ce problème. Fin de la note de bas de page. Si l'on tient compte de certaines manifestations sporadiques qui se sont fait jour, donc, les tendances opportunistes à l'intérieur de notre mouvement remontent assez loin. Mais c'est seulement en 1890 qu'on voit se dessiner une tendance déclarée et unique en ce sens. Après l'abolition de la loi d'exception contre les socialistes, quand la social-démocratie eut reconquis le terrain de la légalité. Le socialisme d'État à la Weimar, le vote du budget en Bavière, le socialisme agraire d'Allemagne du Sud, les projets de Heine tendant à l'établissement d'une politique de marchandage, les vues de Skippel et la politique douanière et la milice, telles sont les principales étapes qui jalonnent la voie de la pratique opportuniste. Le signe distinctif de l'opportunisme, c'est d'abord l'hostilité à la « théorie », entre guillemets. C'est tout naturel, puisque notre « théorie », c'est-à-dire les principes du socialisme scientifique, pose des limites très fermes à l'action pratique, à la fois quant aux objectifs visés, aux moyens de lutte, et enfin, au mode de lutte lui-même. Aussi, ceux qui ne recherchent que les succès pratiques ont-ils tout naturellement tendance à réclamer la liberté de manœuvre, c'est-à-dire à séparer la pratique de la « théorie », entre guillemets, à s'en rendre indépendant. Mais à chaque tentative d'action pratique, la théorie leur retombait sur la tête. Le socialisme d'État, le socialisme agraire, la politique de marchandage, le problème de la milice, autant de défaites pour l'opportunisme. Bien évidemment, pour affirmer son existence contre nos principes, ce courant devait en toute logique finir par s'en prendre à la théorie elle-même, aux principes, et plutôt que de les ignorer, chercher à les ébranler et à construire sa propre théorie. La théorie de Bernstein fut une tentative de cet ordre. Aussi, avons-nous vu au congrès de Stuttgart tous les éléments opportunistes se grouper autour de la bannière de Bernstein. Si les divers courants de l'opportunisme pratique sont un phénomène très naturel, explicable par les conditions de notre lutte et la croissance de notre mouvement, la théorie de Bernstein est par ailleurs une tentative non moins naturelle pour réunir ces courants en une expression théorique générale, pour découvrir une base théorique qui leur soit propre et rompre en lice avec le socialisme scientifique. La doctrine de Bernstein servit donc de légitimation scientifique à l'opportunisme et le soumit à l'épreuve du feu. Comment l'opportunisme soutient-il cette épreuve? Nous l'avons vu. L'opportunisme n'est pas en mesure de construire une théorie positive qui résiste, si peu que ce soit, à la critique. Il n'est capable que de s'attaquer d'abord à certains principes isolés de la doctrine de Marx. Mais comme cette doctrine constitue un édifice solidement assemblé, il finit par abattre le système tout entier, du dernier étage aux fondations. Ce qui prouve que l'opportunisme pratique est incompatible, par sa nature et ses fondements, avec le système de Marx. Mais cela prouve également que l'opportunisme est incompatible avec le socialisme en général. Sa tendance intime le porte à orienter le mouvement ouvrier dans la voie bourgeoise, autrement dit, à paralyser complètement la lutte de classe prolétarienne. Sans doute, si on les considère dans une perspective historique, la lutte de classe prolétarienne et le système de Marx ne sont-ils pas identiques ? Avant Marx, et indépendamment de lui, il eut un mouvement ouvrier et divers systèmes socialistes. Ceux-ci, chacun à sa manière, et selon les conditions de l'époque, traduisaient sur le plan théorique les aspirations à l'émancipation de la classe ouvrière. Tous les éléments de la doctrine de Bernstein se trouvent déjà dans des systèmes antérieurs à celui de Marx. Un socialisme fondé sur des notions morales de justice, la lutte contre le mode de répartition des richesses plutôt que contre le mode de production, une conception des antagonismes de classe réduits à l'antagonisme entre pauvres et riches, la volonté de greffer sur le système de Marx le système du « coopératisme », entre guillemets. Or, en leur temps, ces théories, malgré leur insuffisance, étaient des théories authentiques de la lutte de classe prolétarienne. Elles furent l'alphabet historique dans lequel le prolétariat apprit à lire. Mais après l'évolution de la lutte des classes et de ses conditions sociales, une fois ces théories abandonnées et les principes du socialisme scientifique formulés, il ne peut exister, en Allemagne du moins, d'autre socialisme que le socialisme de Marx, ni d'autre lutte de classe socialiste que celle de la social-démocratie. Revenir aux théories socialistes antérieures à Marx, ce n'est pas seulement revenir au béaba, au premier grand alphabet du prolétariat, c'est annoncer le catéchisme anachronique de la bourgeoisie. La théorie de Bernstein fut la première tentative, mais aussi la dernière, pour donner à l'opportunisme une base théorique. Nous disons « la dernière », entre guillemets, parce qu'avec la doctrine de Bernstein, l'opportunisme est allé si loin, à la fois négativement dans l'abjuration du socialisme scientifique, et positivement dans la confusion théorique, l'assemblage incohérent de tous les éléments disponibles des autres systèmes, qu'il ne lui reste rien à rajouter. Le livre de Bernstein marque la fin de l'évolution théorique de l'opportunisme, il en tire les dernières conséquences. La doctrine de Marx est non seulement capable de le réfuter théoriquement, mais encore elle seule en mesure d'expliquer ce phénomène historique qu'est l'opportunisme à l'intérieur de l'évolution du parti. La progression historique du prolétariat jusqu'à la victoire n'est effectivement pas une chose si simple. L'originalité de ce mouvement réside en ceci. Pour la première fois dans l'histoire, les masses populaires décident de réaliser elles-mêmes leur volonté en s'opposant à toutes les classes dominantes. Par ailleurs, la réalisation de cette volonté, elle la situe au-delà de la société actuelle, dans un dépassement de cette société. L'éducation de cette volonté ne peut se faire que dans la lutte permanente contre l'ordre établi et à l'intérieur de cet ordre. Rassembler la grande masse populaire autour d'objectifs situés au-delà de l'ordre établi, allier la lutte quotidienne avec le projet grandiose d'une réforme du monde, tel est le problème posé au mouvement socialiste. Ce qui doit guider son évolution et sa progression, c'est le souci d'éviter deux écueils. Il ne doit sacrifier ni son caractère de mouvement de masse, ni le but final. Il doit éviter à la fois de retomber à l'état de secte et de se transformer en un mouvement réformiste bourgeois. Il lui faut se garder à la fois de l'anarchisme et de l'opportunisme. L'arsenal théorique de Marx nous offre sans doute depuis plus d'un demi-siècle des armes capables de parer à l'un et à l'autre de ces dangers opposés. Mais notre mouvement est un mouvement de masse et les dangers qui le menacent ne sont pas l'invention de cerveaux individuels, mais le produit de conditions sociales. Aussi, la doctrine de Marx ne pouvait-elle à l'avance, une fois pour toutes, nous mettre à l'abri des déviations anarchiques ou opportunistes? C'est seulement quand les déviations sont passées dans la pratique qu'elles peuvent être surmontées par le mouvement lui-même, mais seulement à l'aide des armes fournies par Marx. La social-démocratie a déjà surmonté le moins grave de ces deux dangers, la maladie infantile anarchiste avec le « mouvement des indépendants », entre guillemets. Elle est en train de surmonter actuellement le second et le plus grave de ces maux, l'hypocrisie opportuniste. Si l'on considère l'expansion énorme prise par le mouvement au cours des dernières années et le caractère complexe des conditions où devait s'engager la lutte, ainsi que des objectifs qu'elle devait se donner, il était inévitable que se manifeste à un moment donné un certain flottement. Scepticisme quant à la possibilité d'atteindre les grands objectifs finaux. Hésitation quant à l'élément théorique du mouvement. Le mouvement ouvrier ne peut ni ne doit progresser autrement. Les instants d'hésitation, de crainte, bien loin de surprendre les marxistes, ont été au contraire prévus et prédits depuis bien longtemps par Marx. Ouvrez les guillemets. Les révolutions bourgeoises, écrivait Marx il y a un demi-siècle dans son 18 Brumaire. Les révolutions bourgeoises donc, comme celles du XVIIIe siècle, se précipitent rapidement de succès en succès. Leurs effets dramatiques se surpassent à l'envi. Hommes et choses semblent sertis dans des feux de diamants. L'enthousiasme extatique est la mentalité quotidienne. Mais elles ont la vie courte. Rapidement, elles ont atteint leur point culminant, et un long mâle aux cheveux s'empare de la société avant qu'elle n'apprenne à s'approprier tranquillement les résultats de sa période orageuse. Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à tout instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble accompli, pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les insuffisances, les faiblesses et les misères de leur première tentative, paraissent n'abattre leurs adversaires que pour que, tirant de la terre des forces nouvelles, ils se dressent à nouveau, plus gigantesques en face d'elles, prennent constamment peur à nouveau devant l'immensité infinie de leur propre but, jusqu'à ce que soit créée la situation qui rend impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes leur crient « Hic Rhodus, hic Salta, c'est ici qu'est la rose, c'est ici qu'il faut danser. » Fermez les guillemets. Ceci n'a pas cessé d'être vrai, même après qu'ait été édifiée la théorie du socialisme scientifique. Le mouvement prolétarien n'en est pas pour autant devenu d'un seul coup, même en Allemagne, socialiste. Il le devient peu à peu chaque jour. Il le devient en corrigeant les déviations opposées. L'anarchisme, l'opportunisme. L'une et l'autre erreur ne sont que des phases du mouvement socialiste considérées comme un processus continu. Dans cette perspective, ce n'est pas tant l'apparition d'un courant opportuniste qui doit surprendre, c'est plutôt sa faiblesse. Tant qu'il ne s'était manifesté qu'à des occasions isolées, à propos de l'action pratique du parti, on pouvait imaginer qu'il s'appuyait sur une base théorique sérieuse. Mais aujourd'hui, en lisant dans le livre de Bernstein l'expression théorique accomplie de cette tendance, on s'écrie avec stupéfaction « Comment ?» C'est tout ce que vous avez à dire. Pas l'ombre d'une pensée originale. Pas une idée que Marx n'ait, il y a des dizaines d'années, réfutée, écrasée, raillée, réduite en poussière. Il a suffi que l'opportunisme prît la parole pour démontrer qu'il n'avait rien à dire. C'est là ce qui fait, pour l'histoire du parti, toute l'importance du livre de Bernstein. Bernstein a abandonné les catégories de pensée du prolétariat révolutionnaire, la dialectique et la conception matérialiste de l'histoire. Or, c'est à elle qu'il doit les circonstances atténuantes de son revirement. Car seule la dialectique et la conception matérialiste de l'histoire peuvent le faire apparaître, dans leur grande magnanimité, pour ce qu'il a été inconsciemment. L'instrument prédestiné qui, en révélant à la classe ouvrière une défaillance passagère de son élan, l'a forcé à le rejeter loin d'elle d'un geste de mépris railleur.